France Inter.
Pour moi, les danseurs, c'est mes pinceaux. Je peins avec leur corps. J'ai jamais eu de limite entre les différents styles de danse. Je peux travailler avec une troupe de flamenco, comme je peux travailler avec une troupe de hip-hop ou une compagnie de danse classique. Parce que l'importance, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter.
Blancali propose à Paris en ce moment un spectacle avec les danseurs de sa compagnie. Le spectacle, c'est L'Ombre, d'après Andersen. Un ballet plus, puisqu'il est réalisé avec de vrais danseurs, et d'autres qui sont virtuels, grâce à un énorme travail de réalité augmentée. Vous avez un casque sur la tête, vous assistez à plusieurs à un spectacle total entre réalité et onirisme, et j'ai vraiment hâte de tout savoir sur la conception de cet art encore nouveau. Bonjour Blancali.
Bonjour.
Bienvenue dans le Grand Atelier. Vous êtes venue avec une professeure à l'Université d'Oxford et à Sciences Politiques, chercheuse interdisciplinaire qui, entre autres, étudie ce que l'intelligence artificielle permet à la création. Bonjour Diana Mangaladio.
Bonjour.
Vous riez parce que je ne parle pas très bien espagnol. On va donc parler d'aujourd'hui et de demain avec vous deux. Je précise, Blancali, que vous êtes chorégraphe, mais aussi depuis un an, présidente de la Grande Halle de la Villette à Paris. Et puis dans le Grand Atelier, nous allons découvrir la rétrospective consacrée à Claire Bretéché à Angoulême. La dessinatrice est morte il y a 5 ans, mais on n'a pas oublié son humour dans Le Nouvel Observateur, ni son personnage d'Agrippine, encore moins son regard sur la famille, sur le couple, les femmes ou le patriarcat. 17h06, c'est votre magazine culturel en direct sur Inter.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Je voudrais commencer par rendre hommage au Brésilien Sebastião Salgado. Le photographe est mort vendredi à 81 ans d'une leucémie. Sa vie fut celle d'un marcheur. Appareil en main, elle commence au Sahel avec un reportage sur la famine. Et son style est déjà là. Des images stylisées, théâtrales, un noir et blanc très fort. Membre de Sigma, puis de Gamma, puis de Magnum, il crée Amazonas, son agence, épaulée durant 50 ans par sa femme, Lélia. On ne compte pas le nombre de projets que mène Salgado, des projets documentaires qui demandent du temps, une préparation soignée. Un des premiers porte sur les travailleurs manuels. C'est la série « La main de l'homme ». Les gestes des travailleurs de 40 pays sont magnifiés. Cheminots ou pêcheurs, il y a une merveille. C'est la mine d'or à ciel ouvert de Serra Pelada au Brésil. Imaginez des milliers d'hommes au travail, pareils à des fourmis. Photos spectaculaires de labeur et de beauté. Elles ont créé beaucoup de vocations de photographes. Sur les réseaux, depuis vendredi, la mort de Salgado oscille entre hommage et dénigrement. On salue son humanisme et son œil, sa défense des hommes et de la nature, mais on lui reproche aussi d'avoir esthétisé la misère, d'avoir fait appel, j'ai lu ça, à des assistants tout en signant lui-même les images, ou d'avoir bénéficié de l'argent du géant minier Vale pour son projet Genesis, géant dont la politique est dénoncée par de nombreuses ONG puisqu'elle détruirait des cours d'eau. Mais alors, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? De l'ordre de la jalousie, de l'aigreur, de la diffamation. Je ne vais pas jouer ici l'avocat ni le procureur. J'aimerais juste évoquer quelque chose peut-être d'anecdotique, mais qui compte. La venue de Salgado à la radio, il y a 10 ans. J'étais au micro de la matinale de France Musique, entouré de journalistes. Il était l'invité. Durant les disques, le photographe se levait et nous photographiait. Quelques jours plus tard, chacun de nous a reçu les photos de cette rencontre, avec un mot de remerciement. D'une vie passée à observer les humains, les animaux, la terre, bref, à célébrer le vivant, Salgado a appris la fragilité de cette vie, la nécessité de la préserver. Il s'est imposé l'élégance comme règle de vie. Écoutez-le superbement interrogé par Bruno Meyerfeld pour À voix nue sur France Culture l'année dernière. Plutôt que de louer son célèbre noir et blanc, il préférait parler de gamme de gris.
J'adore les gammes de gris dans la photographie. Quand tu regardes une photographie noir et blanc, elle n'a pas de noir, elle n'a pas de blanc. Et je voulais faire un voyage dans le monde à la recherche des gris suprêmes. Je voulais faire les plus beaux paysages du monde dans les endroits les plus beaux que j'étais. J'étais dans des endroits incroyables. Je voulais faire un voyage que j'ai fait à pied au nord de l'Éthiopie. C'était une expédition merveilleuse. Je voulais le faire à nouveau, seulement pour capturer la beauté des paysages que je vis là-bas. Je voulais aller au nord de l'Irlande, à l'est de l'Irlande, à l'est de l'Écosse, dans les îles Sandwich du Sud, en Antarctique, dans ces endroits merveilleux, seulement à recherche des gris suprêmes.
Le photographe Sebastião Salgado, mort vendredi, serait sans doute heureux d'écouter le compositeur brésilien, son compatriote Aitor Villa-Lobos. Il l'aimait tant. Je me souviens que dans ce studio dont je vous parlais à l'instant, il écoutait notamment Les yeux fermés, cette aria des Baquianas Brasileiras numéro 5. Je me tourne vers notre invité, Blanca Lee. Vous êtes espagnole et vous avez travaillé à ses côtés, Sebastião Salgado, à l'Académie des Beaux-Arts.
Oui. C'est un des membres de l'Académie des Beaux-Arts. J'ai eu la chance de les rencontrer et de les connaître très bien, justement, parce qu'on a passé les dernières années à se voir de manière régulière. Et je connaissais beaucoup son travail, mais vraiment, autant qu'être humain, c'est quelqu'un d'une sensibilité incroyable, tellement honnête dans son propos, son travail est merveilleux. Et j'ai eu la chance de les voir il n'y a pas longtemps à Deauville pour une expo qu'il vient de faire. Et il a fait un discours où on était tous finis en larmes d'une émotion incroyable. Vraiment quelqu'un d'une honnêteté, d'une vérité extraordinaire.
Diana, vous voulez dire un mot? Peut-être vous avez été auditrice des À Voix Nues Transculture et vous nous conseillez de les écouter. C'est récent, hein, ça a un an.
Absolument, non. Effectivement, c'est une très belle série à voix nue, donc sur Sebastião Salgado. Je le connais pas bien, mais par contre, moi, j'ai vécu au Brésil. J'y retourne ce soir, d'ailleurs.
Oui.
Et je connais beaucoup ces paysages et justement aussi ces paysages industriels qu'il a rendu donc dans ses photographies au Brésil. Donc c'est quand même un travail extraordinaire.
Son travail se trouve dans des livres, bien sûr, et des images de l'artiste sont présentées jusqu'au 1er juin aux Franciscaines de Deauville. Et les peintures, vitraux et sculptures de son fils trisomique, Rodrigo Salgado, se visitent jusqu'en septembre dans l'ancienne église du Sacré-Cœur à Reims. C'est le grand atelier de Blancali, chorégraphe, danseuse, cinéaste, curieuse des nouvelles technologies, présidente de la grande halle de la Villette. Ça fait long sur votre petite carte de visite. On n'a plus de carte de visite. Vous avez convié Dania Mangaladju, professeure à Oxford des sciences politiques, chercheuse interdisciplinaire, spécialiste, entre autres, de l'intelligence artificielle. Vous êtes franco-espagnole. J'ai l'impression que vous êtes plus française qu'espagnole aujourd'hui, malgré le petit reste d'accent qu'il vous reste. Ça fait quand même un moment que vous êtes là depuis 92.
Oui, ça fait très longtemps, je suis très française maintenant, malgré mon accent.
Pourquoi avoir choisi la France pour travailler ?
Et à l'époque, quand je suis venue, bon, mon mari est français, et c'est vrai qu'en France, en plus, la danse, c'était vraiment très respecté. C'était un endroit où il y avait une politique culturelle d'amour pour la danse, et ça, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais m'installer en France.
Est-ce que les danseurs de la compagnie de Blancali sont français ou internationaux ?
Et j'ai beaucoup de Français, mais c'est vrai que la danse, c'est un métier très international. Donc, on se trouve souvent avec des danseurs qui viennent d'autres pays.
Je voudrais qu'on parle de L'Ombre. L'Ombre, c'est votre nouveau spectacle avec les danseurs de votre compagnie, avec une musique composée par Edith.
Edith Canadèche, ici,
voilà,
qui est aussi notre confrère à l'Académie des Beaux-Arts.
Oui, on fait beaucoup de choses ensemble.
Voilà, mais avec Edith Canadèche, ici, on avait créé un ballet, un premier ballet qui s'appelait Corazón Loco, il y a une dizaine d'années, et c'est notre 12e création ensemble.
Le cœur fou.
Exactement.
Corazón Loco, c'est oui. Ça. Et une animation, je reviens à L'Ombre, incroyable, qui nous fait vivre vraiment des moments inédits. On peut le voir, vous pouvez le voir à Paris en ce moment, au Centre Pompidou, plus précisément à l'IRCAM, dans le cadre du festival Manifeste, jusqu'au 13 juin. Est-ce qu'on le verra plus tard à la télévision ? Parce que je vois que France 2 est coproducteur.
Oui, et on va faire une captation, et même si c'est un spectacle très difficile à capter,
oui,
on va voir, c'est un spectacle où il faut tout inventer, même la manière de faire une captation, donc on verra comment on va réussir cette captation.
Tout ce qui est nouveau plaît à Blancali.
Oui, je suis toujours à la recherche des nouvelles formes de création et en utilisant les nouvelles technologies, je pars dans l'aventure et ça m'excite beaucoup.
Alors il faut que j'explique un peu aux auditeurs comment ça se passe ce spectacle. Ça dure juste une heure, mais vous oubliez complètement d'ailleurs le temps et la durée. On vous remet un casque de réalité virtuelle, c'est un gros casque que vous enfilez sur la tête et on s'avance tous ensemble dans une salle en se demandant un peu ce qui nous arrive et on va voir à la fois vos danseurs raconter une histoire avec leur corps, avec leur danse, et en même temps tout un univers virtuel. Il y a, par exemple, d'immenses bâtiments qui apparaissent, sur lesquels des dizaines de danseurs virtuels sont en mouvement, en plus de vos danseurs, Blancali. On voit un savant géant au travail, dont l'ombre va devenir plus que menaçante. Parfois, le plafond s'ouvre, le ciel est splendide, il y a même des spectateurs qui applaudissent, et puis la pluie aussi, quand ce ne sont pas des personnages ou des lettres de l'alphabet géante qui tombent sur nous. Je vous promets que je me suis écarté plus d'une fois parce que j'avais un peu peur de ce qui était en train de se produire. On s'habitue très vite. C'est une nouvelle forme de spectacle, je crois. En tout cas, je n'avais jamais vécu ça et je suis très heureux d'avoir découvert cette réalité virtuelle à ce point. C'est très excitant. Comment vous appelez ça, Blancali ? C'est un spectacle augmenté ? Est-ce qu'il faut parler de réalité mixte ? Quels sont les mots ? Quel est le vocabulaire ?
Comme c'est quelque chose qu'on vient d'inventer, on n'a pas encore une définition exacte, mais pour moi, ce qui est important, c'est que je pars toujours de les spectacles vivants. Donc c'est toujours les spectacles vivants qui est au point de départ.
Donc les danseurs, les vrais danseurs.
Voilà. Mmh. Donc ça veut dire qu'on a un percussionniste qui joue la musique live, on a les danseurs qui sont là, tout est vrai. Et après, moi, ce que j'aime, c'est de voir comment je peux utiliser ces technologies qui sont en train de s'inventer, parce que la technologie qu'on utilise pour ces spectacles n'existe que des pianos et des mi. Et c'est la première fois qu'on crée un spectacle comme ça, donc tout est un peu à inventer. N'empêche qu'à la fin, pour moi, ce qui est important, c'est que c'est les spectacles vivants. On est tous là, on partage un moment unique, et cette technologie nous aide à créer des nouvelles formes de narration et pour lesquelles on va être à partager des moments et des choses qu'on n'a jamais vues avant.
Je dirais qu'on vit des sensations nouvelles.
Exactement.
On se marche même sur les pieds parfois, on se bouscule et c'est pas grave. On va écouter l'ambiance sonore. Je vous propose chez vous de fermer les yeux et d'imaginer par exemple d'immenses immeubles avec des gens qui dansent sur les immeubles. Il y a même un petit chat qui circule de gouttière en gouttière. Que vous savez précisément ce qui se passe à ce moment-là du spectacle et de la partition, Blancali ?
Absolument, je la connais très bien, Manon.
Là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit ?
On est sous la pluie à ces moments.
C'est le moment de la pluie, juste après les applaudissements, alors. Elle a été conçue comment, cette partition sonore et musicale ? J'aimerais savoir comment vous avez travaillé avec la compositrice, parce que vos deux noms sont à égalité, hein, sur le petit fascicule qu'on nous remet sur la Bible, comme on dit qu'on nous remet à l'entrée. Oui. C'est vraiment un spectacle conçu à deux, avec d'autres.
Et ça veut dire qu'on est parti toutes les deux sur l'histoire de l'ombre de Anderson. Et c'est l'histoire d'un savant, sa relation avec son ombre, qui l'envoie à un moment donné pour aller chercher de l'information. Et l'ombre, en prenant sa liberté, et veut devenir un homme aussi. Donc à un moment donné, l'ombre va devenir tellement forte, elle va devenir plus forte que les savants et va décider de les tuer.
Oui, et nous avec. Mais je ne raconte pas tout, je ne raconte pas tout.
Et donc, à partir de cette idée de l'ombre, Edith a commencé à travailler sur sa partition, et moi j'ai commencé à travailler sur le développement technologique, parce que moi j'avais cette envie de faire que les spectacles soient un spectacle immersif, et qui utilise une technologie, bien sûr, au service des spectacles vivants, mais il fallait inventer comment je pouvais mettre 200 personnes dans un casque et partager quelque chose qui allait se passer à moitié dans le monde réel et à moitié dans un monde virtuel. Tout ça, ça nous a pris un an et demi. Et on a travaillé séparément. Ça veut dire qu'elle écrivait la musique d'un côté, moi j'écrivais le spectacle de l'autre. Et à la fin, on est arrivé chacun avec sa création et on a mis ça ensemble.
Tiens, c'est ça. Et ça a marché tout de suite ou il a fallu encore des mois ?
Non, 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 c'est assez incroyable parce que quand on s'est réunis pour les derniers mois, mettre tout ensemble, il y avait comme quelque chose de naturel qui était là et qu'on avait chacun créé, mais c'est tellement bien rassemblé, c'est surprenant. Mais moi, j'aime bien aussi travailler comme ça des fois. J'aime pas trop écrire les chorégraphies sur une musique. J'aime bien avoir la liberté de rêver, d'imaginer les choses et pas être toujours à illustrer une musique. Et j'avais dit ça à Edith, j'ai dit à Edith, t'inquiète pas, même pendant que tu travailles, tu écris la musique, moi j'avais écrit le spectacle. Et après, c'est toujours ces moments où on se réunit et l'œuvre prend forme. Et bien sûr, on adapte, on retravaille ensemble, on fait les choses. Mais c'est très intéressant pour moi de travailler, voilà, chacun un peu dans son monde et de les réunir après.
Alors, je vous ai fait part de mon ressenti, de mes sensations et puis de ma joie aussi d'avoir vu quelque chose de nouveau. Et il y a Diana qui est avec nous, Mangala Diou, qui est chercheuse et qui connaît presque par cœur l'intelligence artificielle au service de l'art, c'est ça, entre autres, qui vous intéresse. Vous étiez le même jour que moi, je crois, le même soir à 19h à l'IRCAM pour voir ce spectacle. Qu'est-ce que vous avez éprouvé, vous qui savez plus de choses que nous sur l'intelligence artificielle et peut-être aussi sur les spectacles de Blancali, Diana ?
En effet, j'étais également vendredi soir à la première et ce que j'aime beaucoup dans tout le travail que fait Blanca, c'est que il y a un vrai mélange et une vraie complémentarité entre l'art et la technologie. Il y a plein de choses qui se passent du côté technologique, mais qui peuvent être assez stériles. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans le spectacle vivant qui se suffit à lui-même. Mais là, il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Il y a de la poésie. Il y a de la surprise.
Du mystère.
Il y a du mystère. Il y a la musique donc, qui est très bien, effectivement, qui donne ce rythme. on a aussi cette liberté parce qu'on peut déambuler tranquillement donc, dans cette ambiance donc des, où nous sommes à 200 donc, pour expérimenter et pour ressentir.
C'est important ça parce que souvent, dans ce genre de spectacle, on est tout seul. Et du coup, le spectacle est assez court et puis on se succède. Alors que là, c'est une expérience de communauté.
Exactement, complètement immersif et donc c'est intéressant aussi de voir, il y a des gens qui de temps en temps ils enlèvent un peu leur casque
pour voir un petit peu
si vraiment ce que l'on voit à travers le casque de réalité virtuelle, est-ce que effectivement ces danseurs sont vraiment là? Parce que parfois il y a cette question, quels sont les danseurs virtuels et quels sont les danseurs réels? Donc il y a une continuité qui est vraiment incroyable.
Oui, c'est la question de la vérité au fond que vous interrogez, comme on dit dans le spectacle. C'est de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, et est-ce que le faux sert le vrai? Il y a un jeu, J-E-U, avec ça, de vous, Blancali.
Oui, j'avais très envie de jouer, parce que et quand j'ai découvert cette technologie, qui est les casques de réalité mixte, j'ai vu qu'on pouvait être en même temps dans les réels, mais que des choses qui n'étaient pas là pourraient apparaître dans le monde réel. J'ai trouvé ça très intéressant, tout de suite, ça m'a donné envie de créer. Et donc, le spectacle, et mon défi à moi-même, c'était de créer un spectacle, et un spectacle vivant sans réalité virtuelle, mais qui pourrait se voir avec ou sans. Donc, il y a deux lectures, en réalité, des mêmes spectacles. On peut les voir totalement sans casque, on peut les voir complètement avec les casques, mais on peut aussi être curieux et regarder et enlever les casques et les remettre. Et ça, bon, c'est drôle parce que là, on se rend compte de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, les choses qui sont vraies, les choses qui ne sont pas vraies. Et c'est un jeu aussi pour les spectateurs d'être dans cette espèce de découverte de qu'est-ce qui se passe vraiment.
Oui, c'est important. Moi, j'osais pas vous le dire, mais j'ai un peu triché, j'ai regardé la réalité.
Oui,
en
mais c'est l'idée.
Ce que je crois être la réalité, c'est-à-dire que les danseurs sont à 3 cm de vous, parfois. Hein,
oui, oui, ils sont vraiment
pas
là. Oui, oui.
On peut les toucher. Bon, je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais on a une proximité qui est aussi très importante dans la réception du spectacle de Blancali. Blancali, que vous connaissez depuis un petit moment, Diana, parce que vous aviez, je crois, vous habitiez Londres, et Blancali avait créé Robots,
oui,
un spectacle avec sa compagnie, avec des danseurs et des petits robots qui étaient sur scène.
Oui, effectivement, j'ai découvert le travail de Blanca avec Robot au Barbican, à Londres, je crois que c'était...
2013.
Non, je pense
donc,
que c'était un peu plus tard,
plutôt...
peut-être 2000, je ne sais pas, 16-17 peut-être. Je ne me souviens plus, et peu importe. Et donc j'ai découvert ce travail, et c'est ce qui est, une fois de plus, ce qui est très intéressant, c'est cette mélange de, à la fois très poétique. Donc il y a des moments où particulièrement, je me souviens, il y a un danseur qui apprend à danser un petit robot avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de bienveillance. Donc il y a des moments qui sont où quelque part c'est les robots qui prennent un peu le dessus dans le spectacle. Il y a des moments où vraiment c'est les danseurs et il y a ces moments de respiration, donc où il y a ces fluctuations donc entre eux, une fois de plus ces androïdes qui depuis ont beaucoup évolué d'ailleurs, mais ils marchaient très bien déjà. Donc il y avait une vraie émotion qu'on ressentait donc dans ce spectacle.
Oui, parce que Blancali nous avouait qu'elle a peur à chaque fois, et il y a deux représentations par soir, 19h et 21h, que quelque chose se passe mal, que l'électricité s'arrête, que voilà, que le cauchemar se produise, ce qui n'a pas du tout été le cas, et je touche du bois, parce que la table est en bois, ça ne se produira pas. On va écouter François and the Atlas Mountain sur France Inter, dans le grand atelier de Blancali, et puis on vous retrouve toutes les deux, mesdames, pour continuer de parler de ce qui est important dans l'intelligence artificielle et le spectacle vivant.
J'avais à cœur de t'emmener dans des lieux isolés. Un seul projet de vie s'enfuir jamais. La foule folle alliée, tribu de cinglés. Je vais prendre les choses en main, pour leur faut juste se tailler, se tailler, se tailler. Mais les voiles plient sous le poids des années. Les mains sont un fatras de combine alambiquée. Courir vers toi un temps, le temps de tout dépenser. Au pied d'un mur d'argent, s'évader dans ses pensées. Respire le parfum de tes.
tes cheveux si le moment s'y prête. Respire un peu. Attire, toucher du bout des yeux, peu à peu, juste du bout des yeux. Un peu le style qui pime entre les cils, cette fille agile, déroule en main de le fil. J'avais à cœur de t'emmener dans des lieux isolés. Un seul projet passé entre les mailles du filet. Tu dis que je saute des cases, mais je vais pas seul poireauter. Je passe de point de paroter, GPS coordonnées. Je m'en cogne, mon cœur est une boussole, je suis magnétisé. Respire le parfum de tes cheveux, si le moment s'y prête. Respire un peu. Attire, toucher du bout des yeux, peu à peu, juste du bout des yeux. Un peu le style qui pile entre les cils, cette fille agile, déroule en main de le fil. Cette fille agile déroule en main de le fil. Un peu le style qui cligne entre les cils. Cette fille agile déroule en main de le fil.
La voix douce de François and the Atlas Mountain, c'était Le Fil sur France Inter.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'imagination artificielle, finalement, c'est la manière dont la société le perçoit et dont les médias tentent de le raconter. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on raconte ? On ne raconte pas ce qui est en train de nous arriver, on raconte un film de science-fiction. C'est-à-dire, c'est la créature qui s'échappe. Est-ce qu'on arrive à dominer la créature ? Or, dans nos expérimentations artistiques, on voit bien qu'on est dans un dialogue, dans une espèce de synergie étrange, ambiguë, ce qu'on pourrait appeler, d'un mot un peu barbare, l'anthropotechnologie, c'est entre deux, entre l'être humain et la machine, mais pas du tout dans la science-fiction. Et de toute façon, les artistes ont été, depuis fort longtemps, appareillés par des techniques. Il n'y a pas d'art sans technique. Ça n'existe pas.
Ben voilà un artiste qui, en l'occurrence, est canadien, qui défend, Diana, l'intelligence artificielle au service de l'art. Ça fait longtemps, lui, qu'il emploie les nouvelles technologies. Est-ce qu'il n'y a rien à craindre, dans le domaine du spectacle en tout cas, est-ce qu'il n'y a rien à craindre de l'intelligence artificielle ? Je précise que ce Canadien qu'on écoutait s'appelle Grégory Chatonsky.
Oui, et peut-être juste avant de vous répondre sur la crainte, vos auditeurs peuvent aller voir la quatrième mémoire qui est en ce moment dans une exposition donc au Jeu de Pommes.
Oui, il y a une exposition sur l'intelligence artificielle.
Exactement. Donc les travaux de Grégory Chatonsky sont là.
Voilà.
Est-ce qu'il n'y a rien à craindre ? Bien sûr, il y a beaucoup à craindre.
Alors quoi, par exemple ? Il nous faudrait 2 heures, mais là, qu'est-ce que vous pouvez dire ?
Je pense que tous les auditeurs ont dû faire face à des questions des fausses informations ou donc ça c'est quelque chose que l'on j'y suis roumaine, on vient d'avoir des élections donc en Roumanie, il y a énormément de choses qui ont été utilisées donc pour influencer le vote qui finalement on a éviter, c'est le moins le pire, donc dans ces élections-là. Mais il y a des questions éthiques qui sont très importantes. Mais l'intelligence artificielle, et c'est un peu ce que disait Chatonsky, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire ? Donc c'est une technologie, et comme disait plutôt Blanca aussi, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on se l'approprie et qu'est-ce qu'on en fait ?
Vous l'appropriez depuis longtemps maintenant, Blanca Lich. C'était tout à l'heure, la création est 2013, mais à Londres, c'était plus tard le spectacle robot. Il y a plusieurs spectacles avec de l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies. Vous avez fait vôtre l'IA.
Oui, ça veut dire que nous, les artistes, on peut utiliser l'IA pour beaucoup de sujets différents, et c'est assez pratique, c'est très utile. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai commencé à travailler avec les petits robots, ils étaient déjà, d'une certaine manière, des petits humanoïdes qui répondaient à des questions, qui pouvaient te lire un livre. Enfin, c'était un peu un début. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, et c'est ça, et on est dans un moment où tout le monde a très peur, et voilà, c'est un moment de changement, parce que ça change complètement notre société. Et c'est un peu le thème de l'ombre aussi, c'est de dire, voilà, quand on crée quelque chose qu'à un moment donné, on a peur qu'il va nous dépasser, qu'est-ce qui se passe? Mais, comme Diane a dit très bien, c'est à nous de dire qu'est-ce qu'on fait avec, comment on l'utilise. Finalement, c'est nous qui devons travailler avec cette intelligence artificielle et l'adapter à notre monde.
Qu'est-ce que vous lui demandez en général, puisque ça fait plusieurs spectacles encore une fois que vous travaillez avec l'IA, Blancali, qu'est-ce que vous attendez d'elle?
Mais par exemple, dans les spectacles de l'ombre qu'on vient de faire, on n'a pas beaucoup travaillé avec l'intelligence artificielle, parce que tout est très, finalement, c'est hyper technologique, mais en réalité, c'est très artisanal. Mm-hmm. J'ai 15 métiers différents, tout le monde travaille dans son coin, et pour créer les images, pour faire les programmes, pour faire tous les travails, et finalement, c'est derrière, il y a des vrais humains qui travaillent vraiment avec leur savoir-faire. Après, il y a des moments où on peut l'utiliser pour nous aider, par exemple dans des calculs, quand on est en train de faire de la programmation, ou pour faire des recherches sur certaines images, ou des choses comme ça. Donc, c'est pas ce qu'on croit, on pousse un bouton et voilà, il y a un spectacle qui apparaît. C'est vraiment, elle peut être utile pour, à certains moments, pour des recherches, ou pour comprendre mieux comment on fait un programme, ou des choses comme ça, mais pas tellement, c'est pas quelque chose qui va créer toute seule. L'intelligence artificielle ne peut pas créer, c'est nous qui faisons la création, c'est les humains.
Personne va nous voler notre place?
Non.
Les danseurs ne vont pas être remplacés par des robots?
Voilà.
La compagnie a toujours le même nombre de danseurs?
C'est ça.
Oui?
Non, et les artistes et comme les personnes, enfin, tout peut utiliser l'intelligence artificielle pour t'aider et pour développer avec quelque chose. Mais derrière, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est ça qui est très important. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on veut faire avec.
Diana, je voudrais que vous poursuiviez cette relation que vous avez, je pense, d'amitié, mais aussi de travail, peut-être, avec Blancali. Quelle est-elle? Comment échangez-vous? Est-ce que Blancali vous interroge sur votre spécialité de chercheuse?
Nous avons commencé à travailler ensemble il y a pas très longtemps. Mais par contre, nous avons un projet donc dans lequel nous allons travailler beaucoup ensemble sur justement Blanca, et peut-être je voudrais en parler plus, et est en train de mettre en place une plateforme qui soit ouverte, qui soit à la disposition donc des artistes, pour justement pouvoir faire de la création, mais aussi de la diffusion, de la mise en relation et stimuler donc entre différents langages, entre différentes formes artistiques, donc ces questions de création, et j'en ferai partie.
Et qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, d'après vous?
Plusieurs choses. D'une part, c'est ces questions de place de la technologie, sur la question des questions d'éthique qui sont importantes. Mm-hmm. Donc, quelle est la valeur de l'œuvre qui est finalement produite?
Ah oui,
à qui ça appartient, qui est l'auteur.
Qui est l'auteur, bien sûr.
Absolument. Mais aussi des questions, qu'est-ce qu'on fait de données, quelles sont les données que l'on utilise, qu'est-ce qu'on en fait, selon quoi, est-ce qu'on a des biais particuliers dans ce que l'on crée, comment on s'adresse, est-ce qu'on façonne, on influence les gens d'une manière ou d'une autre. Donc, ces réponses, ces questions sont importantes, et les réponses peuvent être co-créées, en fait, par les différents artistes.
Ce ne sera pas vous l'autrice, ce ne sera pas l'IA, ce sera vous deux avec l'IA. C'est ça, Blancali. Racontez-nous votre vision à vous de ce projet et de cette plateforme pour les artistes.
Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, voilà, le monde est en train d'échanger, et moi, je me dis que pour nous, les artistes, c'est important aussi de pouvoir être plus en contact, parce que les artistes sont dans le monde entier. On fait les créations dans le monde entier, mais des fois, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se rencontrer. rencontrer, même les publics qui connaissent pas forcément le travail de beaucoup d'artistes parce qu'ils sont loin, parce qu'on n'a pas accès, parce qu'on est dans des mondes où on ne peut pas voyager ou échanger. Donc, il y a cette espèce de rêve de créer une plateforme pour les artistes où ils peuvent créer et échanger avec les publics, avec les professionnels.
Montrer leur travail, des étapes
leur
du travail.
Trouver des personnes qui vont être affines à leur travail, avec lesquelles ils vont pouvoir faire peut-être des coproductions, comprendre aussi ce qui se passe dans son endroit dans le monde, mais aussi un lieu où la culture est accessible à tous, et n'importe où on est, et dans un lit d'hôpital ou dans un endroit où on ne peut pas bouger, et avoir cet accès à la culture complet. Mais comme dit très bien Diana, et après, c'est très compliqué, et j'ai besoin des gens comme elle qui connaissent bien, qui font la recherche pour voir comment tout ça, pour l'instant c'est un rêve, mais comment on peut arriver à que ce rêve existe. Il faut des personnes qui comprennent très bien la technologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on donne accès justement aux artistes, comment on développe cet espace, parce que ça va être un espace de création, d'échange et de diffusion des œuvres, et comment on peut, enfin, tout est à faire, et on est vraiment dans un moment très au début de ces projets, et on doit réfléchir beaucoup avant de commencer. Et l'éthique est quelque chose, comme elle disait très bien, une des choses les plus importantes.
Donc il y a qui autour de vous, à part Diana? Il y a d'autres chercheurs dans d'autres domaines?
Oui, on va être à pas mal de personnes, parce qu'on doit réfléchir très bien.
Des spécialistes du droit?
Et bien sûr, des spécialistes du droit, beaucoup de techniciens qui vont devoir développer cet espace où on a envie de parler toutes les langues, par exemple, parce que si par exemple, moi je vais parler avec quelqu'un, échanger dans la plateforme, il va falloir qu'on puisse parler la même langue. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut se comprendre presque. Si je parle en espagnol et l'autre il me répond en anglais, on va pouvoir avoir, il y a des outils géniaux. Tout ça, il va falloir mettre en place pour que ça soit vraiment un espace accessible.
Mais ce sera quand vous aurez accès à cette plateforme? Quand? Il faut quoi, 5 ans, 10 ans?
Ça va prendre pas mal de temps, je pense, oui. Et on est au début, on doit commencer à travailler, et ça va prendre le temps que ça prend, parce que la technologie et beaucoup des outils sont en développement, justement. Elle connaît très bien tout ce qui se passe. J'ai besoin des gens qui peuvent aussi imaginer qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Il faut qu'on soit aussi en avant pour imaginer les temps de demain, qu'est-ce qui va être le futur, et qu'on crée quelque chose qui va fonctionner dans les prochaines années.
Je vois dans vos yeux que ça vous excite complètement, ce projet. À toutes les deux d'ailleurs, parce que ça fait vivre autre chose, et vous avez passé jusqu'à présent votre vie, Blancali, à, encore une fois, à être curieuse de territoire. Vous êtes quelqu'un d'assez politique, ça c'est un projet politique. Vous acceptez des postes politiques, peut-être que vous avez envie de postes de pouvoir, je ne sais pas. D'ailleurs, est-ce que c'est le cas?
Non, c'est pas les pouvoirs qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la beauté de la création, c'est le partage, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la création, parce que moi, ce qui m'émue, c'est quand on se réunit tous autour d'une œuvre, quand on va dans un musée, quand on voit quand on écoute un concert, quand on lit un livre, quand on voit une pièce de théâtre. Ces moments de partage, c'est ce que j'aime beaucoup, et c'est ça mon moteur, c'est l'amour pour la création et pour les lieux qui provoquent la rencontre des publics autour de la création.
Alors vous êtes assise à côté de moi, silhouette impeccable, vous êtes toute droite. C'est parce que vous êtes danseuse, mais qu'avant, peut-être, vous étiez à l'équipe nationale de gymnastique dès l'âge de 12 ans. Vous étiez un peu la Nadia Comaneci espagnole, les quelques titres en moins. Et puis vous arrivez en 92, vous, native de Grenade, Blancali, à Madrid. Vous êtes une jeune danseuse, c'est juste après la Movida, au fond, la célèbre Movida que Almodóvar a bien su compter. À 17 ans, vous quittez l'Espagne, vous allez à New York. Et là, vous rejoignez les élèves d'une grande chorégraphe, une grande théoricienne aussi du mouvement, du corps, de la danse, c'est Martha Graham. Je vous propose d'écouter ce qu'elle dit sur la danse et l'avenir de la danse, interview de 1950.
I think it is not important in which direction they go. That is,
peu importe la direction que prend la danse, peu importe même ce qu'elle essaye d'exprimer. Ce qui importe, c'est que la danse reste vivante et en prise avec son temps.
And quick for its own time.
L'important, c'est que l'on aille de l'avant, que l'on embrasse l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui, avec courage. Donc, ce que l'on raconte n'a pour moi que peu d'importance, tant que c'est raconté avec enthousiasme, passion et talent.
Qu'est-ce que dit Martha Graham? Ça vous émeut de l'écouter, hein? Parce qu'elle vous parlait beaucoup, à vous, étudiant en danse, puis danseur de sa compagnie. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce qu'elle vient de dire, sur ce que doit être la danse de demain?
Mais je me souviens toujours d'elle qui disait « passion, passion ». Et elle aimait beaucoup l'Espagne, hein, elle aimait beaucoup, elle s'est inspirée beaucoup des danses qui racontent vraiment des choses et qu'elle parlait beaucoup de la terre, des énergies, les vraies. Enfin, elle voulait vraiment que la danse transmet des vraies choses. Et moi, je suis un peu comme ça aussi. J'ai gardé ça d'elle. J'ai dit toujours à mes danseurs, il faut qu'on soit vrai, il faut qu'on transmet des vraies émotions. Pour moi, la danse doit vraiment raconter son temps, bien sûr, mais aussi les émotions qui sont universelles et qui sont toujours là.
Et ce que j'entends en 1950, c'est Martha Graham qui dit « La danse doit être en prise avec son temps ». C'est un petit peu ce que vous faites aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et les casques de réalité virtuelle. Blancali.
Oui, je pense que c'est très important que nous, les artistes, on soit toujours à la recherche des nouvelles formes de création et qu'on soit toujours en regardant notre temps, où est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe autour de nous, c'est ça qui nous inspire et comment, avec notre temps, on peut encore créer des nouvelles choses.
Voilà, rendre compte de la réalité avec l'art. C'est l'un des projets de tous les artistes, certes, mais notamment de Blancali. On va partir dans un instant pour Angoulême, si vous le voulez bien, parce que là-bas, on voit le travail de feu Claire Bretéché, la dessinatrice disparue en 2020, qu'on lisait dans l'Obs, à l'époque le Nouvel Observateur, et qui, avec des personnages féminins comme Agrippine, a donné son point de vue sur nos comportements au XXe siècle. Avant ça, on écoute la soul de l'Américain qui vit à Liverpool, Jalen Gonda.
Yeah!
Le Grand Atelier sur France Inter.
Il y a quand même une petite aventure quand on fait un trait. La façon dont ça griffe le papier, on devient amoureux de ça quand c'est votre boulot. L'intérêt du travail, c'est ça. Et quand on a une plume qui accroche d'une certaine façon, bon, elle peut accrocher d'une façon à tout bousiller, mais si elle est à peu près convenablement drivée, la façon dont ça accroche sert le projet du trait.
La voix et la pensée de Claire Bretéché, l'autrice des Frustrés et d'Agrippine, morte en 2020, il y a donc 5 ans, une des très grandes dessinatrices du XXe siècle qui est à l'honneur à Angoulême. Je salue Anne-Hélène Houg, bonjour.
Bonjour Vincent Josse.
Une rétrospective Claire Bretéché est organisée à la Cité internationale de la BD et de l'image à Angoulême jusqu'en mars 2026. Vous êtes co-commissaire de l'exposition avec Michel Lioré. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette voix ?
C'est comme si je la voyais. Et elle a cette manière de poser des choses d'une manière quasi catégorique.
Oui, c'est vrai.
Quand elle ne sait pas, elle dit « je ne sais pas ». Mais autrement, si elle se décide à parler, elle parle. Mais elle avait une façon très singulière de regarder son travail avec une très grande modestie d'abord.
Alors pour ceux qui ont, je sais pas, moins de 50 ans par exemple, il faut préciser qui était cette grande dessinatrice, cette autrice de BD et cette femme qui dessinait et regardait la société dans Le Nouvel Observateur. On appelait le magazine comme ça à l'époque. C'est quelqu'un qui a dessiné les bébés, les ados, les femmes, les hommes de son temps.
Elle fait ce qui s'appelle la comédie de mœurs, c'est-à-dire qu'elle fait ce que faisait Molière. D'ailleurs, le travail qu'elle fait sur ses textes montre à quel point les textes précédaient l'image, hein, à quel point elle est consciente de l'importance du dialogue, de l'importance de la répartie, de l'échange. Et en fait, elle est vraiment l'héritière d'une grande veine de comédie de mœurs. Aussi, on peut mettre La Fontaine là-dedans, on peut mettre Jane Austen aussi là-dedans. C'est-à-dire ce sourire, ce rire, cette comédie qui, en fait, tourne en dérision les ridicules, tourne en dérision les contradictions des contemporains. Et très tôt, on voit s'amorcer dans ces bandes dessinées ce goût de la satire, de l'humour, quelque chose d'assez fin, qu'elle a aussi appris en suivant ce que faisait Pierre Dac avec L'Os à moelle et ce que faisait Goscinny avec Isnogoud et d'autres, et Astérix, etc. Donc il y a un accrochage qui va suivre sa carrière et qui va montrer aussi comment elle devient Bretéché, comment elle va signer Bretéché à la fin en lettres capitales alors qu'elle a très longtemps hésité sur sa signature. C'est à partir de L'écho des savanes avec Mandrika et Gottlieb qu'elle laisse libre cours en fait à cet humour ravageur, à ce sens de l'absurde qu'on retrouve dans La vie passionnée de Jeanne d'Arc, La vie passionnée de Thérèse d'Avila, Les mémoires d'un chien de race, etc. Et puis elle va passer au Nouvel Obs d'une façon tout à fait inattendue. Elle va y remplacer Copy. Et d'ailleurs, Copy et Jules Pfeiffer sont deux auteurs qui ont été extrêmement puissants pour elle, qui ont déterminé beaucoup sa manière de poser aussi les gens dans les canapés, les dialogues, les gens affalés. Et le corps tout entier dit la situation, dit la contradiction, pose en quelque sorte une chose que la parole vient contredire.
Tu comprends, mon poussin, c'est très triste pour Psyché, mais tu n'es pas Psyché, tu es Agrippine. Tu as la vie devant toi.
Ah ouais, quelle vie. J'ai pas de projet à aller chez le planétaire. Je trouve jamais mes chaussettes. J'aime pas tellement les langoustines.
Et même avec le forfait de 10 heures, je trouve rien que sur des boîtes vocales.
C'est quand mes tartines ?
Chut.
Donc tout ce que vous exprimez là, Anne-Hélène Houg, on va le voir sur des murs, dans des vitrines. Oui. On va voir notamment des dessins d'Agrippine.
Oui, il y a des originaux, il y a plus de 150 originaux qui sont présentés, plus de très nombreuses pièces d'archives personnelles, mais aussi des archives du fonds patrimonial de la Cité internationale de la bande dessinée. Donc ça permet de montrer la richesse de son travail. Et puis l'activité au Nouvel Obs a fait émerger la pensée Bretéché dans la culture des intellectuels, dans la culture politique. Enfin, tout d'un coup, ça devenait incontournable. Et ça l'a extraite de l'univers purement bande dessinée.
Signé Bretéché, c'est l'exposition consacrée à Claire Bretéché, disparue il y a 5 ans à Angoulême, donc à la Cité internationale de la BD et de l'image. Je vous remercie, Anne-Hélène Houg.
Merci à vous, Vincent Josse, et j'espère que vous viendrez voir l'exposition.
Bien sûr, et j'espère aussi que les auditeurs liront le très beau livre qui est consacré à la dessinatrice, L'art de bretécher chez Dargaud.
Très bel ouvrage.
Blanca Di, on m'a évoqué Martha Graham, vos années new-yorkaises, vous êtes revenue ensuite en Espagne, mais il y a eu aussi cette vie dans le quartier de Spanish Harlem, où vous créez vers 1988-1989 un groupe de flamenco rap, pour dire que vous allez dans toutes les directions. Et vous vous passionnez pour une musique, un genre, une culture qui est en train de naître, qui est le hip-hop, et il y a une musique qui naît.
We are from Spain, we came to New York. Look at this, look at that, look at this, look at that. Look at this, look at that, look at this, look at that. Look at that, oh never mind, never mind. We take subway up, we take subway down.
J'aimerais savoir pourquoi vous riez, Blanca Di. Qu'est-ce que c'est ça?
Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté ça.
C'est Rojones, non?
Las Chochonis.
Chochonis.
C'était mon groupe de rap quand on habitait à New York, parce que c'était le moment où j'ai commencé à voir les premiers danseurs de hip-hop dans la rue. Le rap commençait à être vraiment quelque chose de fort. C'était les années 80.
Mais ça vous a marqué longtemps, le hip-hop?
Ah oui, 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 ça fait partie de ma vie. Hein.
Macadam,
et,
macadam.
Et j'étais avec des copains de partout dans le monde. On a créé ce groupe de Spanish rap un peu, parce que on chantait à moitié en anglais, à moitié en espagnol, et on a beaucoup rigolé, on a fait beaucoup de tournées et même un disque
qui a eu du succès ou qu'on a oublié.
Moi, un succès relatif, hein. Mais non, n'empêche qu'on a été numéro 1 en Colombie.
Ah oui?
Ah, quand même, hein.
Ah oui, ça aussi, sur un CV, c'est pas mal, Blanca Di. Et puis, vous êtes allé vers le baroque. Vous êtes capable d'aller travailler à l'opéra, de monter Didon et Aîné, Casse-Noisette, avec quand même toujours une revisitation de l'œuvre, hein.
Oui, j'ai fait mon Casse-Noisette il y a 3 ans, qui est un Casse-Noisette hip-hop. J'avais très envie de voir ces Casse-Noisettes avec une autre forme de danse. Et je me suis éclatée vraiment à faire un Casse-Noisette avec des danseurs qui tournent sous la tête, qui sautent, qui ont une énergie complètement différente de la danse classique. C'était vraiment quelque chose que j'avais très envie de faire depuis longtemps.
Oui, et le Bal de Paris, c'était aussi avec de la réalité virtuelle?
Oui, le Bal de Paris, c'est une autre technologie que la réalité virtuelle. Et c'est un spectacle dans lequel le public et les danseurs se réunissent dans un monde complètement virtuel, mais où ils sont vraiment présents et ils partagent une heure dans des univers complètement incroyables. Ils vont danser, partager. En fait, le public se retrouve sur les plateaux avec les danseurs.
Mmh, ça donne... Vous le reprendrez?
Ah oui, oui, oui.
Oui, on ira danser, Diana?
Absolument.
Diana, toujours partante. Dans quelques jours, elle sera à Beyrouth pour ses recherches. Pourquoi vous aimez être avec des artistes, Diana?
C'est très intéressant de voir ce que donne ce mélange entre artistes et chercheurs. Donc science et création, et qu'est-ce qu'il en sort? On ne sait jamais d'avance, on a toujours des surprises. Et c'est toujours très stimulant, c'est pas toujours facile. Mais ça fait une vingtaine d'années que je fais ça et j'explorerai de plus en plus.
Merci d'être venu présenter votre travail et votre amitié et collaboration avec cette plateforme pour les artistes et pour le public aussi en devenir. Diana Mangaladiou, on mettra votre actualité, votre revue sur la page du grand atelier sur franceinter.fr. Et merci Blanca Di de votre joie et puis de votre goût de tout ce qui est nouveau. Aussi. L'ombre, c'est à l'IRCAM à Paris jusqu'à la mi-juin.
13 juin.
Lucie Lemarchand a réalisé cette émission préparée avec Louise Tempero, Joseph Ascal, Betty Algré, programmation musicale de Valentine Chedebois. À la technique aujourd'hui, c'était Guillaume Roux.